Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Elisabeth Antebi.
Bonjour. Aujourd'hui, dans la série des prix décernés par l'Académie française, nous recevons M. Christophe Barbotin, conservateur au Musée du Louvre, qui vient de recevoir le prix Max Serre pour un livre tout à fait étonnant qui s'appelle « La voix des hiéroglyphes » et qui vient de paraître aux éditions Kéops. Mais d'abord, Monsieur Barbotin, qu'est-ce que c'est que le prix Max Serre ?
Alors bonjour, le prix Max Serre est un prix décerné par l'Académie française d'inscription et belles lettres pour récompenser certains travaux relatifs à l'archéologie, à sa publication et à sa diffusion.
Très bien, donc vous avez eu ce prix ô combien mérité, car il s'agit d'un ouvrage un peu spécial, un guide un peu spécial du département des antiquités égyptiennes dont vous êtes conservateur. Vous enseignez, je crois, aussi à l'école du Louvre.
Oui, j'enseigne l'épigraphie égyptienne aux étudiants de troisième année à l'école du Louvre, donc à des étudiants déjà confirmés et à qui j'apprends à étudier les textes directement sur les monuments, comme tout archéologue et tout historien doit le faire.
Donc on y reviendra, mais ils veulent devenir archéologues, ils veulent suivre vos traces, vos pas ou...
Certains le veulent, certains sont indécis et d'autres ont la ferme volonté de le devenir. Et comme je leur dis toujours, c'est possible, c'est difficile mais possible.
Bon, on y reviendra. On va d'abord parler de votre livre. Donc vous introduisez longuement et d'une manière pleine d'humour, ce qui est assez rare quand même de notre temps et dans un ouvrage de ce genre, les Égyptiens qui ont écrit et parlé. Alors on n'a que leur voix funéraire, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on imagine que c'est un peuple tout à fait mort, alors que c'est un peuple qui non seulement est toujours vivant, je crois, mais ça vous nous le direz, mais qui a parlé à peu près la même langue, des variantes près, pendant 4 millénaires, ce qui bat d'un tout petit peu la langue grecque qui m'est si chère. Alors, pouvez-vous nous raconter ?
Oui, la langue égyptienne est la langue dont la longévité est la plus longue, du moins historiquement attestée. C'est-à-dire que l'égyptien a été une langue vivante pendant 4000 ans et que nous pouvons suivre les étapes de cette langue vivante pendant cette durée. Et
c'est alors ça elle qui... venait d'où ? Elle était, quelles sont les racines de l'égyptien ?
Alors les racines, il y a une forte proportion de racines sémitiques. L'égyptien est fondamentalement une langue sémitique. Nous retrouvons dans l'égyptien un grand nombre de racines de mots, de structures grammaticales que l'on trouve en arabe, en hébreu, en acadien. Il y a également une part de l'égyptien qui est beaucoup plus mal connue, qu'on attribue à un fond africain, un petit peu par défaut, puisqu'on connaît très mal les langues africaines, et parce que cette partie ne se rapporte à aucune langue connue. Traditionnellement, l'égyptien est classé dans les langues kamito-sémitiques, c'est-à-dire donc mi-africaine, mi-sémitique.
Oui, car au fond, ce qu'on appelle sémitique, je crois, on devrait les appeler kamitiques, puisque c'est la terre de Cam plutôt que la terre de Sem, je crois, selon la répartition biblique. Oui. Bon, alors, vous donnez la parole à ces Égyptiens. Pourquoi ? D'abord, pourquoi ? Pourquoi leur donner la parole ? Et d'autre part, comment avez-vous fait pour aller chercher, enfin, je suppose au musée du Louvre, mais enfin, vous avez extirpé même des cahiers d'écoliers, ce qui est tout à fait étonnant.
Oui, nous avons la chance extraordinaire avec l'archéologie égyptienne d'avoir une énorme masse de documents et de nature très variée. Ça tient à deux choses. D'abord, des raisons physiques. Le climat égyptien est exceptionnel et conserve beaucoup plus de documents d'une nature très variée que dans les autres civilisations. La deuxième chose, c'est que la civilisation égyptienne a accordé une place considérable à l'écrit. Quand je dis la civilisation égyptienne, c'est la culture des élites, la seule que l'on puisse, de ce point de vue, entrevoir. Voilà pourquoi nous avons une gamme de documents très variés. Nous avons des ardoises d'écoliers dans le sens où les Égyptiens, les apprentis scribes, s'exerçaient sur des, non pas sur des ardoises, mais sur des éclats de pierre ou de poterie, sur lesquels ils traçaient leurs textes et leurs essais à l'encre. Ces essais sont parvenus jusqu'à nous.
Oui, alors vous avez dit la langue de l'élite. Pour nous, l'élite veut dire tout à fait autre chose parce que nous avons vécu les révolutions, les tables rases de la mémoire et autres connotations qui ne donnent peut-être pas la même impression de l'élite. Vous parlez beaucoup d'un mot qui revient fréquemment sous votre plume et pour cause, du hiératique. Qu'est-ce que le hiératique ? Est-ce que ça n'était pas plutôt les prêtres, l'élite ?
Alors, le hiératique, c'est donc une appellation qui a été donnée par les Grecs, à une époque donc très tardive, pour l'écriture cursive, correspondante aux hiéroglyphes. Dans la réalité de la civilisation égyptienne, le hiératique n'est rien d'autre que l'écriture personnelle, manuscrite des Égyptiens, par rapport aux hiéroglyphes, un petit peu comme votre écriture personnelle par rapport à l'écriture d'imprimerie.
Oui, mais si on l'appelle hiératique, c'est bien que hiéros, ça crée. Donc c'était l'écriture quand même de quelqu'un qui écrivait pas tout à fait comme moi, qui était quelqu'un de plus sacré que moi.
Parce que ce nom a été donné par les Grecs à une époque tardive où l'écriture hiératique effectivement transcrivait des textes figés, religieux, magnifiés par la tradition. Mais c'est une sorte de hasard de l'histoire. L'écriture hiératique à l'origine et pendant la majeure partie de l'histoire égyptienne n'a pas cette fonction-là. La fonction sacralisante de l'écriture est revêtue par les hiéroglyphes. Alors effectivement, hiératique, c'est-à-dire écriture des prêtres.
Et hiéroglyphe, c'est hiéros aussi, c'est sacré,
voilà.
Bien entendu.
Mais c'est l'écriture sacrée qui est gravée, glupto.
Très bien. Bon, alors ce que je voulais savoir aussi, c'est à un moment donné, vous racontez d'une manière formidable quelque chose qui a paru très compliqué pendant au moins 2 siècles, et même plus, et qui, pour vous, vous me racontez en un paragraphe que j'ai beaucoup admiré, parce que c'est la première fois que j'ai cru comprendre, ou deviner du moins, la valeur de la découverte de Champollion. Parce que vous nous racontez tout ça en une page, même pas. Pouvez-vous, en prenant tout votre temps, raconter quel est le propre de cette écriture que Champollion a fini par déchiffrer et qui, j'ai bien compris, n'est ni un pictogramme, ni un idéogramme, ni proprement de l'alphabet?
Eh bien voilà, la grande difficulté que posaient les hiéroglyphes aux chercheurs avant Champollion, depuis le XVIIe siècle, c'était qu'en voyant tous ces signes qui paraissent des signes animés, vous avez toutes sortes de choses, de bêtes, etc., les chercheurs considéraient que c'était des signes, comment dire, des idéogrammes, des signes symboliques. Voilà. Et donc ils partaient dans des grandes théories qui n'étaient pas fondées et qui aboutissaient toujours dans le mur. Un peu plus tard, d'autres chercheurs se sont demandé si ce n'était pas au contraire des signes purement phonétiques, c'est-à-dire un signe valant un son. La grande trouvaille de Champollion, après beaucoup de tâtonnements, c'est d'avoir trouvé que c'était les deux. C'est-à-dire, en simplifiant un petit peu, un même signe hiéroglyphique pourra avoir valeur d'idéogramme, un signe égale une idée, c'est-à-dire la chose qu'il représente, le signe de la maison représentera la maison, mais peut aussi avoir une valeur phonétique. Si on reprend le signe de la maison, il vaudra pour 2 consonnes, P plus R, parce que la maison en égyptien se disait quelque chose comme père. Je parle de consonnes, puisque la langue égyptienne, langue sémitique, ne notait pas les voyelles, comme l'hébreu et comme l'arabe.
Et vous dites à un moment donné que ça correspond pour nous à MSN, à 3 lettres finalement.
Voilà, si on voulait faire un hiéroglyphe à partir du signe d'une maison en français, eh bien, si on voulait utiliser ce hiéroglyphe dans un sens phonétique, on obtiendrait ces 3 consonnes MSN. Et on oublierait le AI, E et le O, puisque ce sont des voyelles.
Bon, alors je suis une bonne élève.
Excellent élève. Bon. Ça me rassure sur ce que j'ai dit.
Bon, et alors, vous nous dites aussi quelque chose qui peut paraître évident pour un chercheur, évidemment, mais que c'est depuis le XVIIIe siècle seulement que nous nous posons toutes ces questions, puisqu'auparavant, finalement, tout ce qui nous passionne aujourd'hui et qui est tellement à la mode, l'égyptologie, ne bouleversait pas nos concitoyens d'autrefois.
Non, jusqu'au XVIIIe siècle, l'Égypte était connue par le biais des écrivains grecs et par le biais de la Bible. Donc c'était dans une perspective chrétienne, ou une perspective classique. Les Grecs eux-mêmes ne savaient pas comment fonctionnaient les hiéroglyphes, même si l'écriture était encore un usage de leur temps, donc ils n'ont pas pu transmettre la clé du système.
Alors qu'est-ce qui vous a le plus ému et étonné finalement en faisant ce bouquin? Est-ce que vous-même vous avez découvert quelque chose? Ou alors est-ce que c'était la somme de vos connaissances? Mais enfin vous êtes bien jeune pour avoir une somme de connaissances. Est-ce que vous avez donc découvert, est-ce que vous vous êtes émerveillé de certaines choses?
Oui, et j'ai découvert des choses, et heureusement parce qu'effectivement si j'étais la somme de mes connaissances, je n'aurais plus qu'à partir à la retraite, ça serait bien triste. J'ai découvert des thèses que j'ai vues sous un autre angle. J'ai également fait des découvertes surprenantes, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, notamment sur le sarcophage du pharaon Ramsès III.
Par exemple, qu'est-ce que
vous... Eh bien, j'ai en sélectionnant quelques colonnes de texte pour écrire ce livre, je me suis aperçu qu'une partie de cette inscription n'avait ni queue ni tête. Et alors, en analysant ce qui se passait, je me suis aperçu qu'on avait un texte qui avait été fragmenté en de multiples morceaux et recollé au petit bonheur.
Oui, je me rappelle.
Et je supposais, mais là, je ne peux pas en être sûr, c'est une hypothèse que j'avance, je n'ai pas de preuve pour le dire, que peut-être... Le modèle qui a servi au graveur s'est rompu parce que le modèle était sur papyrus et que l'artisan a reconstitué comme il a pu le texte. Donc n'importe comment. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'un texte, du point de vue égyptien, un texte écrit comme ça n'a aucune valeur. Et c'est l'une des nombreuses illustrations qui montrent qu'à cette époque-là, le prestige de la royauté n'est pas du tout celui qu'on imagine. C'est-à-dire qu'il était très très affaibli. Crise des institutions.
Alors, vous parlez aussi du support, et ça m'a étonnée parce que les textes grecs nous sommes venus sur des supports, mon Dieu, qui n'étaient pas bien solides. Pourquoi est-ce que les supports égyptiens, alors est-ce que c'est parce que c'est plus loin dans le temps, évidemment, mais est-ce que les supports égyptiens étaient plus fragiles?
Ils étaient plus solides. Les supports égyptiens sur pierre, bien entendu, résistent longtemps, mais oui. Comme les Grecs, ils ont utilisé le papyrus, les parchemins. La grande différence, c'est que la pensée grecque a bénéficié d'une chaîne continue de transmission depuis l'Antiquité jusqu'à nous, en passant par le Moyen-Âge byzantin. Avec l'Égypte, avec l'édit de Théodose à la fin du IVe siècle, le paganisme est interdit et il y a une rupture complète. Ce qui fait qu'une grande partie de cette culture sombre dans l'oubli et dans la nuit. Après, interviennent les phénomènes matériels, bien entendu, le papyrus est fragile, donc beaucoup, beaucoup de choses ont disparu. C'est uniquement cette lacune par rapport à la culture classique est uniquement due à la rupture de la chaîne de transmission.
Et ce qui est surprenant aussi, c'est dans ce qui s'est gardé. Alors évidemment, c'est ce qui s'est gardé. Il y a au fond peu d'écrits qui laissent supposer des poètes, si, mais des philosophes. Alors philosophie est un mot grec, donc on suppose que ça a été inventé en Grèce. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui soit le propre d'une littérature égyptienne, autant qu'on puisse deviner, qui ne soit pas des livres de contes, qui ne soit pas La gloire du roi? Est-ce qu'il y a des Martial, des Juvénal,
Non, enfin là, il y a une littérature, comme vous l'avez bien souligné, il y a une littérature égyptienne au sens propre, dont nous sommes bien conscients que nous n'avons que des bribes, pour les raisons qu'on vient de dire. Mais il n'y a pas de philosophie, bien entendu. La philosophie, c'est une invention grecque. La philosophie procède d'un esprit rationnel, et l'esprit rationnel n'existe pas en Égypte. Alors, on a des écrits de moralistes, qu'on appelle des sagesses, qui sont des recueils de proverbes, de maximes et de conseils, où on trouve en alternance des préceptes moraux assez généraux, qui peuvent être intéressants de notre point de vue, et d'autres beaucoup plus terre-à-terre. Les Égyptiens ne faisaient pas tellement la différence.
Nous allons retrouver M. Christophe Barbotin dans quelques minutes, et un petit temps de pause. Nous retrouvons M. Christophe Barbotin, conservateur au musée du Louvre et qui vient de publier un livre que je vous conseille à tous de lire, La voix des hiéroglyphes, aux éditions Kéops, qui présente une certaine part d'humour. Je vous dis simplement une petite note que j'aime bien. Il souligne combien il est impossible de retracer toute la pensée égyptienne à partir des sarcophages, et où il dit autant décrire la vie parisienne d'après l'archéologie du Père Lachaise. Ce qui est assez le ton de cette introduction. Je vous le dis parce que ça pourrait paraître extrêmement pompeux. Pas du tout. C'est plutôt rigolo, n'exagérons pas, mais enfin c'est plutôt vivant et emballé. Je voulais vous demander, Monsieur Barbotin, aussi, vous qui allez, je crois, souvent en Égypte.
Oui, j'y vais régulièrement, tous les ans, pour des fouilles archéologiques dans la vallée des rois,
oui.
À la tombe de Merimta.
Je voulais vous demander si dans la vie quotidienne égyptienne, si dans tout ce qui vous entoure en Égypte, vous retrouvez une part de vos recherches, est-ce qu'il y a une parenté ou plus du tout?
Alors, il faut distinguer deux niveaux. Dans la vie rurale, il y a bien entendu des continuités, encore que les choses changent très vite aujourd'hui avec la modernisation accélérée de la société, mais on retrouve le même type d'habitat en briques crues, les mêmes modes de culture. Il y a beaucoup de souvenirs dans la toponymie, de noms arabisés mais qui dérivent directement de l'égyptien ancien.
Les noms de lieux, quoi.
Les noms de lieux, oui, exactement. Mmh. Mais sur le fond de la culture, non, la rupture est totale.
Depuis quand ?
Depuis la fin du paganisme, fin du 4e siècle de notre ère, on a parlé tout à l'heure de l'édit de Théodose. On sait que l'Égypte a fait de la résistance, si on peut dire, puisque le dernier temple païen qui a été fermé, celui d'Isis à Philae, n'a été fermé que sous Justinien, c'est-à-dire au début du 6e siècle. Mais à partir de ce moment-là, le monothéisme efface l'héritage païen, autant qu'il le peut. Ensuite arrive l'invasion arabe et le début de l'islam qui en confirme cette rupture.
Et pourtant l'arabe est une langue parente puisqu'elle est aussi sémitique, non ?
L'arabe est une langue cousine, comme l'hébreu, mais c'est une langue différente, un petit peu comme entre le français et l'italien, si vous voulez. Et donc la langue égyptienne elle-même s'éteint progressivement avec l'arrivée des Arabes. Elle est de moins en moins parlée et en tant que langue vivante, elle s'éteint vers le 9e siècle de notre ère.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu le dernier empereur ? Est-ce qu'il y a eu un dernier pharaon ou une dernière pharaone ?
Alors le dernier pharaon égyptien autochtone, effectivement, c'est le pharaon Nectanébo II qui a vécu au 4e siècle, donc juste avant la deuxième invasion perse. Et le dernier pharaon en titre, je dirais que c'est Théodose. Mesure où tous les empereurs romains étaient en Égypte pharaons.
Oui,
donc
c'est vrai.
La fiction politique du pharaon dure jusqu'à la fin du paganisme.
Alors, depuis qu'on vous écoute, je pense qu'on a pu entendre d'après votre voix que vous étiez jeune. Donc ça peut faire rêver tous vos élèves d'abord, qui ne sont pas tellement plus jeunes que vous. Et d'autre part, tous ceux qui rêvent non seulement de la mode égyptienne, ce qui est un peu futile, mais d'une vraie recherche archéologique. Alors, est-ce que la désespérance actuelle sur l'archéologie est fondée ? Et si elle l'est, est-elle totalement fondée ? Peut-on encore espérer ?
Alors, les débouchés archéologiques sont effectivement très limités, mais ce n'est pas impossible. On peut, surtout en égyptologie, domaine que je connais bien, les places sont rares, mais en général, elles s'ouvrent à qui a de la volonté et de la persévérance, qui est une vertu assez rarement partagée. Mais quand on veut, presque souvent, on peut. Alors, il y a plusieurs possibilités, même si elles sont réduites. Il y a bien entendu l'université qui offre des postes, le CNRS et les musées en général. Pour l'égyptologie, c'est bien entendu le département égyptien du musée du Louvre. Contrairement à d'autres types de collections, il n'y a pas de collection égyptienne importante partout en France.
Alors, plus personnellement, parce qu'après tout, on a des modèles personnels, quel est votre parcours ? Vous, quand est-ce que vous avez voulu vous consacrer à ça ? Voilà, tout bêtement.
Eh bien, moi, j'ai découvert l'Égypte ancienne en 6e. C'était le programme d'histoire. Et puis, petit à petit, au grand désespoir de mes parents, j'ai voulu être égyptologue. Et donc, ils ont vu en moi un chômeur de longue durée. Et puis non, j'ai donc fait parallèlement une licence d'histoire à l'université de Paris 4 et j'ai suivi des cours à l'école du Louvre pour l'histoire de l'art. Et dès que j'ai eu la licence, je me suis présenté au concours de conservateur, j'avais 22 ans et je l'ai eu.
Avec la licence, on peut déjà...
On peut se présenter,
ah, oui.
C'est fini.
Oui.
Ça donne la licence, ouvre les postes administratifs de catégorie A.
Il y a des limites d'âge ?
Non, il n'y en a plus. Il y en avait jusqu'à une époque récente, mais maintenant, pour des raisons d'harmonisation de la législation européenne, il n'y a plus de limite d'âge et c'est une très bonne chose. Parce que les études égyptologiques sont longues et il est bien évident qu'il est rare qu'on arrive très, très jeune à ce poste-là.
Et alors le Louvre, tout de suite ?
Pas tout de suite. J'ai d'abord fait un an et demi de stage, d'abord au musée de Saint-Germain-en-Laye, ensuite au musée Granet, Aix-en-Provence, dont j'ai plus tard publié la collection égyptienne. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de chance puisque un poste par hasard s'était libéré au département égyptien et donc je suis arrivé au département égyptien à 23 ans.
Dites-moi, maintenant, à propos des collections elles-mêmes du Louvre, peut-on les comparer à d'autres musées, par exemple ? Je suis totalement néophyte et inculte en la matière, mais j'étais très impressionnée par les salles du Altes Deutsche Museum à Berlin, par exemple, qui sont absolument somptueuses. Peut-être beaucoup moins riches, bien entendu. Hein. Mais, bon, sont-elles moins riches, d'ailleurs ? Et est-ce qu'il y a des natures différentes de collections ? Est-ce qu'entre les Anglais, les Allemands, les uns et les autres, choisissent des pôles de collections différents ?
Alors, pour répondre à votre question, la collection égyptienne du Louvre fait partie des 4 ou 5 plus grandes au monde.
Avec ?
La première étant celle du Caire, bien entendu, avec la collection du musée de Berlin, du musée de Turin et le British Museum, qui sont les plus grandes collections au monde. Quant à la nature de ces collections, elles sont très souvent déterminées par les circonstances. Au XIXe siècle, les collections se formaient par des achats massifs, notamment par le biais des consuls européens qui travaillaient en Égypte. Et ensuite, elles se sont formées aussi en grande partie par les fouilles, puisque jusqu'à une date assez récente, l'Égypte, le gouvernement égyptien, accordait des partages d'objets de fouilles. Donc en fonction des endroits fouillés, des hasards et circonstances, telle et telle collection se constituait. Bien entendu, il y a des fonds communs à toutes ces collections, et puis certaines ont des points forts dans tel ou tel domaine. Ça, c'est le hasard qui le détermine.
Est-ce que vous avez eu un archéologue qui était un peu votre modèle? Est-ce que vous aimeriez ressembler à quelqu'un dans les domaines archéologiques, ou est-ce que les archéologues ne vous font moins rêver que les collections?
Les archéologues me font effectivement beaucoup moins rêver que les collections, mais bien entendu, j'ai eu des modèles, à la fois en archéologie et en égyptologie. Je dirais que mon modèle au Louvre, ça a été Jean-Louis de Sénival, auquel je profite de l'occasion pour rendre hommage, qui était l'ancien conservateur en chef du département égyptien, qui a trouvé à son arrivée un musée dans l'état du 19e siècle et qui l'a fait passer d'un seul coup au 21e siècle. Il y a lui, sur le plan universitaire, j'ai également beaucoup d'intérêt pour et d'admiration pour Georges Posner, dont les travaux sont mondialement réputés.
Alors, dans votre livre, La voie des hiéroglyphes, donc, aux éditions Khéops, quelle est finalement l'inscription pour laquelle vous avez le plus de tendresse?
Voilà une question difficile.
Ah, vous n'avez pas de tendresse pour les inscriptions?
Si, mais j'en ai pour beaucoup.
Alors, deux, trois.
J'ai une tendresse peut-être particulière pour l'inscription sur la harpe. Puisque là, j'ai trouvé quelque chose qui était comme un ampe, c'est pas une notation musicale, mais qui trahissait la manière dont les Égyptiens concevaient la musique.
C'est vrai, ça c'est très étonnant. Oui, dites-nous alors.
Oui, on s'appelle. Donc les Égyptiens n'avaient pas de mots pour musique, ce qui en dit long sur ce qu'ils pensaient. La musique pour eux n'était en fait qu'un accompagnement d'un texte, la primauté absolue du texte qui était scandé. Cette inscription le montre bien. J'ai également aussi trouvé des choses intéressantes sur une stèle, la stèle du général Nissou Mantou, qui évoque une guerre civile. Il est intéressant d'observer comment les Égyptiens analysaient la guerre civile, une chose qui pour eux était inconcevable, sortait de tous les cadres, et donc que l'on évoque par périphrase, sans jamais nommer personne.
Parce qu'on a honte de se combattre contre soi-même.
Ça n'entre pas dans le cadre, alors on est obligé de trouver des circonlocutions. Le cadre égyptien normal, la vision du monde égyptienne officielle, est dualiste. Vous avez l'Égypte d'un côté, les ennemis, le reste de l'autre.
Oui, ils ont un très joli nom pour ça, les neuf...
Les neuf arcs, voilà, qui sont les neuf ennemis traditionnels de l'Égypte. Toute la pensée égyptienne est dualiste. Alors dans ces circonstances, les troubles internes, il est très difficile de rendre compte et ça fait sauter le cadre, si vous voulez. Donc on emploie des formules déviées.
En tous les cas, pour accéder à cette pensée égyptienne complexe que vous nous faites deviner à travers bien des choses, et tout ça dans un petit livre très accessible à tout le monde finalement, parce qu'il se lit à plusieurs niveaux. Alors nous vous recommandons bien sûr La voie des hiéroglyphes de Christophe Barbotin aux éditions Khéops.
Et Musée du Louvre, coédition.
Et coédition, pardon, du Musée du Louvre. Merci Monsieur Barbotin. D'ailleurs, il faut signaler non aussi la personne qui a traduit.
Oui, bien entendu.
Signalez-le.
Oui, ce livre n'aurait pas l'aspect qu'il a sans la collaboration de Didier Devauchel, qui est professeur à l'Université de Lille et qui est un spécialiste du démotique. Le démotique étant la dernière phase de l'égyptien ancien.
La langue du vulgum pecus.
Voilà, mais qui est devenue la langue écrite par excellence à la fin du premier millénaire.
Merci, monsieur Barbotin.
Merci.